Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Mathieu Stéphanie. Comment vas-tu ?
Ça va très bien, merci Clément, et toi ?
Très bien, mais ça me fait très plaisir en tout cas que tu m'accueilles ici dans tes locaux.
Chez Cosa Vostra, ouais, ça me fait
Paris,
très plaisir de te recevoir.
Ouais. Ils sont très très sympas. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler de ton parcours et aussi de ta passion que tu as pour l'horlogerie. Tu te qualifies comme un entrepreneur récidiviste. Tu as cofondé Cosa Vostra et tu es actuellement président exécutif de Cosa Vostra. Donc, tu es à l'origine du podcast Génération Do It Yourself.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connu. Et puis, mais j'en ai écouté un bon nombre.
Qui sont d'ailleurs, merci, c'est bien.
Ouais, et puis, mais qui sont d'ailleurs très inspirants.
T'écoutes La Martingale, mon deuxième podcast. Tu vois ce que c'est ou pas ?
Ouais.
Sur les finances
perso. J'en ai écouté quelques-uns, ouais.
On a fait quelques épisodes sur les montres, notamment, je te disais, avec Greg Blumenfeld. Ouais. Je me régale aussi sur podcast, qui est vraiment donc apprendre à gérer ses finances perso, c'est sympa.
Ma première question, mais c'est présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie ?
Écoute, je suis un entrepreneur dans le sang. Je suis un papa de 3 enfants. Je suis un mari aimant. Je suis j'essaie d'être un homme bien dans ses baskets dans des années. Un peu chelou, tu vois, là, on est encore quasi mi-confiné, mi-voilà.
Ouais.
Et malgré tout ça, je pense qu'on arrive à vivre dans un monde qui est assez extraordinaire. Et moi, j'aime surfer un peu sur le temps dans lequel on est, tu vois. C'est un rapport lointain avec l'horlogerie, mais je pense vraiment qu'on vit une époque qui est assez incroyable, qui est pleine d'opportunités. Tu vois, encore récemment, là, mes plus récentes découvertes sont autour du Web3, de la blockchain, des NFT, de toutes
NFT,
ces choses-là. Je me régale
à
aller échanger avec des experts là-dessus. Et voilà, je suis une sorte de... Tu vois, j'aime bien ce côté vraiment très entrepreneur. J'ai mis longtemps à assumer le fait d'être entrepreneur. Je trouvais que les gens qui disaient ça se la pétaient un peu. Mais en fait, moi, je ne me la pète pas. Je suis juste entrepreneur. J'adore. Je suis un aventurier et du business et du numérique et des médias, des podcasts. J'essaie de vivre la vie que j'ai envie de vivre.
Ouais, donc t'aimes bien créer des choses.
Ouais.
Comment était Mathieu à l'âge de 20 ans ?
Écoute, Mathieu à l'âge de 20 ans, j'étais... Alors c'est marrant parce que, j'allais dire, j'étais beaucoup moins, ou je ne veux pas dire que je suis sûr de moi aujourd'hui, j'ai plein de doutes évidemment, comme tout le monde, mais je ne l'étais vraiment pas beaucoup, tu vois, j'étais capable de fulgurance de temps en temps, mais très timide avec les filles, timide avec... j'étais pas introverti, n'exagérant rien. Mais pour certains, c'est pour ça que je te dis c'est marrant, parce que je pense que pour certains qui me regardent à l'époque, ils te diraient totalement le contraire, que j'étais pas du tout comme ça. En revanche, moi, j'en connais qui étaient 10 fois moins timides que moi. Donc, j'étais beaucoup plus timide et surtout donc pas assez sûr de moi, je pense. J'aurais aimé l'être plus tôt, plus sûr de moi, parce que je pense qu'en fait... il n'y a pas de raison, on se met beaucoup de barrières, de plafonds de verre, etc. J'étais déjà, je pense, assez passionné par plein de choses. J'ai jamais été trop un tir au flanc, tu vois. J'ai toujours aimé bosser beaucoup, j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai joué au hockey sur glace à un certain niveau. J'ai toujours aimé travailler, découvrir. J'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours aimé un peu la peinture, la musique, les montres. Les montres, c'est venu un tout petit peu plus tard. Les montres, si je peux rentrer là-dedans rapidement. En fait, les montres, j'ai découvert ça quand j'habitais à Londres, donc je devais avoir à peu près 25 ans. Et en fait, il se trouve que j'ai quitté mon seul et unique job dans une autre boîte, qui n'était pas la mienne.
Okay.
Quand j'ai quitté mon job, pour x ou y raison, j'ai eu une sorte de bonus, une prime de départ, parce que tu as quelques mois que je n'ai pas eu à effectuer, plus des bonus sur différentes choses. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de marquer... ma vie par ce truc qui commence à m'intéresser, qui sont les montres. Donc, m'acheter une montre, je trouve que c'était intéressant parce que, en fait, c'est un marqueur de temps à tous les sens du terme. Et en fait, je me souviens à chaque montre pour quelles raisons je les ai eues. Et j'essaye de pas m'acheter une montre
comme ça.
Tu vois, je vais me faire plaisir. Il faut que ça corresponde à un événement, qui est généralement un événement quand même qui a un lien financier. Ça peut être un lien affectif, ça aurait pu être pour chacun de mes enfants,
Et à l'âge de 20 ans, mais comment tu voyais le monde ?
Comment je voyais le monde ?
Ouais, est-ce que tu te voyais être là où tu es maintenant, d'une manière différente ?
Je me projetais, je crois, déjà comme entrepreneur.
Ok.
Je voyais le monde comme un univers d'opportunités, très clairement. Faut te remettre juste dans l'époque. Donc moi, j'ai 42 ans, on enregistre en 2022. Ouais. Donc à 20 ans, on était, tu vois, en 99-2000. Internet, c'était vraiment, on était dans les balbutiements. Je commençais à, tu vois, j'ai travaillé dans une agence digitale
à l'époque.
Pour mes 20 ans, 20, 21 ans. Donc je commençais à bien me rendre compte qu'il allait se passer des choses là-dedans. J'en étais très conscient. Mais j'avais pas forcément déjà réalisé le tsunami que ça allait être. J'aurais peut-être dû parce que je m'y suis mis quand même assez vite, hein, honnêtement. Mais voilà, j'ai essayé de regarder autour de moi les opportunités. Je voulais à fond travailler dans l'univers de l'audiovisuel. Finalement, je me suis retrouvé dans les médias, ce qui est un peu un cousin. Mais je savais qu'il fallait avoir l'audace, je savais qu'il fallait être démerdard, je savais que comme toi, tu vois, tu crées t'as quel âge toi ?
23.
23, tu vois, t'as créé ta chaîne YouTube, tu fais tes médias, etc., etc. Faut, à un moment, tu vois, je pense que tu le vis aussi, mais quand moi je l'ai aussi vécu plus tard, mais les gens autour de toi, ils se disent, oui, mais qu'est-ce qu'il fout Clément avec son machin, etc. Et puis au fur et à mesure, au bout d'un moment, ça marche. Il y en a qui disent, ouais, bon, voilà, il y en a qui ont oublié qui t'avaient dit que ça marcherait jamais. Mais voilà, faut juste être assez confiant et.
Et être.
Ouais, et pas avoir ce syndrome de l'imposteur aussi, tu vois.
Ouais.
On avance, on apprend. Et puis,
Toi, t'as commencé à travailler à quel âge ?
J'ai commencé à travailler à 22 ans. Alors, hors stage, hein, mon premier job, c'était 22 ans, je pense. Ouais.
Et c'était quoi comme.
22 ans. C'était. J'étais chez Métro, le quotidien gratuit. J'étais le premier Métro, employé du quotidien gratuit Métro, qui est un quotidien. C'était le premier quotidien gratuit en France qui a duré. Qui a été racheté par TF1 quelques années plus tard. Ils m'ont embauché. Alors, j'ai passé 6 mois à chercher mon premier job parce que je voulais vraiment trouver le job que je voulais faire. Quoi. J'ai trouvé
l'idéal
des trucs.
Et tout, quoi.
Ouais, j'ai trouvé des trucs plus prestigieux, j'ai trouvé des trucs plus rémunérateurs. Mais là, j'ai vu une équipe, c'était des Suédois. Ils lançaient un média, c'était une mode de start-up avant la mode des start-up. C'était un peu des bourrins, t'es arrivé, bam, etc. Et en fait, j'ai été recruté, tu vois, en janvier 2000. J'ai dû commencer le 2, 3, 4 janvier 2002.
Okay.
Et un mois et demi après, on lançait un journal en France à 350 000 exemplaires, sachant que j'étais le premier français.
Ah ouais,
donc il n'y avait personne dans l'équipe. En un mois et demi, on a fait une équipe. Fait des numéros zéro, sorti un journal, imprimé, distribué dans 3 villes. Enfin voilà, c'est vraiment, tu vois, à l'âge, quoi. Le truc, il était qu'à moitié bon, mais c'est pas grave, tu vois. C'était,
on y va. Quoi.
Ouais, on lance et puis après, on voit.
Tête baissée.
Exactement. Et donc, j'ai adoré ça. Et après, je suis devenu sales dans cette boîte. Donc, ils me proposaient différentes options de poste. Et c'est un peu comme ces, je sais pas si tu vois, Unilever, Procter & Gamble, toutes ces boîtes qui sont des endroits où ils te font passer toujours par le niveau le plus bas.
Le plus bas.
Tu vois, au début, tu es les sales. Après, tu gagnes tes galons assez vite. Après, je gérais le plus gros portefeuille en France, puis à l'international. Et puis, elle là, tu vois. Et après, je suis parti. C'était vraiment passionnant. C'était vraiment passionnant.
Et donc, mais comment t'en es venu à créer Cosa Vostra ?
Cosa Vostra, ça a été pas mal plus tard. Entre-temps, j'ai créé une start-up en 2005 qui s'appelait CitizenSide. Et j'ai quitté cette start-up après 5 ans et demi, 6 ans. Et en fait, quand tu quittes une boîte et que tu es entrepreneur, tu touches pas de chômage.
Mais comment tu l'as quitté enfin, mais t'as fait un...
Alors, on l'a vendu en partie, on a fait une levée de fonds, on l'a vendu en partie.
T'as fait un exit.
J'ai fait un petit exit, n'exagérons rien. J'ai fait un demi-échec sur une autre partie parce qu'en fait, il y a un moment où je voulais pas. Disons qu'on a fait une première levée de fonds sur laquelle on a fait un cash out. On a vendu une deuxième partie de manière raisonnable, mais voilà, bon, après j'étais jeune, hein, donc j'avais une trentaine d'années. Disons que c'était pas les millions que j'espérais, quoi. Mais voilà, on a fait des sorties en centaines de milliers d'euros, pour être très concret. Ce qui t'aide à acheter un appartement, faire un emprunt, un truc décent, avoir un bel apport, etc. Et puis acheter 2-3 petites choses. Et puis par la suite, je me suis retrouvé, j'ai voulu partir. Moi, à un moment, je me suis dit, je suis plus majoritaire dans ma boîte. J'ai retravaillé un peu avec eux. La boîte a été ensuite cotée à la bourse de Sydney. Bon, il me restait quelques pourcents, donc ça a payé quelques petits trucs. Mais voilà, moi, j'ai voulu juste partir. Et je me suis retrouvé tout seul en janvier 2011, sans chômage, sans rien, à me dire, maintenant, je vais devoir facturer des clients. Tu vois. Ouais. Quoi qu'il arrive, je vais devoir manger. Quoi. Qu'est-ce que je fais ? Et donc, du coup, tu te retrouves à faire différentes choses. Moi, je connaissais le digital à mort. J'étais là-dedans depuis déjà 7-8 ans. Donc, je faisais beaucoup de conseils. Parce que ça, tu vois, tu vois un client, tu lui dis « je vais t'aider à faire du chiffre, à augmenter ton audience, à vendre des choses sur Internet. Bon, bah, moi, je connaissais ça sur le bout des doigts. Je savais mettre les mains dans le cambouis, je savais faire de la strat, je savais leur dire combien ça, faire des devis, faire plein de choses, de la gestion de projet et tout. Donc, en fait, je me suis retrouvé à créer une agence, finalement, sans le vouloir, avec des tas de freelance, avec des missions pour moi-même, des missions pour d'autres personnes, et puis à facturer tout ça. Et puis, au bout d'un moment, en fait, tu fais quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Et en parallèle, en plus, j'avais créé un truc assez drôle qui s'appelait Iron Cards, qu'on a revendu depuis, qui fait des cartes de visite en métal.
Mais pour l'anecdote, mais je suis passé par eux pour faire des cartes en métal.
T'en as, donc tu
ouais,
en as.
Ouais, ouais, ouais.
Bah, c'est moi qui ai créé cette boîte-là.
D'accord.
Mais je l'aurais revendu. Et donc voilà, je me suis mis à créer pas mal de petites boîtes.
D'accord.
Tu vois, c'était vraiment du bootstrap, quoi. Je bricolais dans mon coin, mais Iron Cards, je dirais au mois d'août 2011 ou 2012, je sais plus. Je me suis mis sur WordPress, j'ai fait plein d'articles, j'ai fait machin. J'avais commandé déjà des cartes en métal, elles étaient super belles. Et puis je me suis dit, je vais devenir leader mondial de la carte de visite en métal. Tu vois, un truc un peu lambda, débile. Et puis ben, ça a marché assez vite. C'est des trucs où tu vois des business sur lesquels tu peux facturer quelques dizaines de milliers d'euros par mois, sur lesquels tu vis bien. Et donc voilà, j'étais une sorte d'indépendant plus. Et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, je voulais plus d'employés, je voulais plus de bureaux, je voulais plus tout ça. Mais en fait, à un moment, je me suis retrouvé un peu seul, tu vois, avec mon ordi et mon téléphone, des gens que je faisais bosser à distance. Et moi, je suis un vrai team player. Et donc, j'ai réuni mon frère avec qui je bossais de temps en temps, qui bossait sur certains de mes clients et qui est notre directeur technique. Ouais. François, que tu as peut-être aperçu, un de mes associés, et Laurent. Et puis, on a créé Cosa Vostra, qui était une sorte d'ersatz de bébé qui a été accouché de ma boîte. Donc, ils ont racheté un certain nombre de parts, enfin investi dans Cosa Vostra. On a créé ça tous les trois en 2013. Voilà. Donc, de facto, j'avais une agence sans l'avoir voulu. Je l'avais créée en bilan, en faisant plein de trucs, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a continué ça. C'est-à-dire que j'avais cette agence, on avait Cosa Vostra, et on a continué à créer des sites comme Iron Cards, créer des business en parallèle, qu'on a revendu au fur et à mesure du temps. Donc là, ça fait, au moment où on se parle, ça fait 7 ans qu'on a créé Cosa Vostra. Et on a dû vendre 6 sociétés, tu vois. Certaines très très bien, d'autres
un peu moins bien.
Mais enfin, je crois qu'on n'en a pas vendu une seule en dessous de 150 000 euros ou quelque chose comme ça. Donc c'est toujours quand même plutôt pas mal. Bon, ça nous demande beaucoup de travail. Mais voilà, on a une sorte de modèle un peu hybride dans lequel on travaille pour nos clients et on travaille sur nos sociétés à nous. Ce qui nous permet quoi ? Ça nous permet d'apprendre en permanence, quoi. D'apprendre les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai lancé aussi un podcast, à faire du e-commerce nous-mêmes et de montrer en fait qu'on a, comme disent les Anglais, du skin in the game, quoi. Les mains dans le cambouis. Je peux pas être celui qui donne des conseils à mes clients sans savoir de quoi je parle. Exactement.
C'est vrai. Et donc, mais comment t'es venu l'idée du podcast ?
Ben, j'écoute des podcasts depuis 2013-2014. Alors, je pense que même par rapport aux anglo-saxons, j'étais très tôt dans les auditeurs de podcasts, de la nouvelle vague. Donc, je me suis mis à devenir complètement
accro à ça.
Mais accro, tu vois. Enfin, je le suis toujours, hein, d'ailleurs. J'écoute des heures et des heures de podcasts par semaine, je dirais en moyenne 6-7, tu vois, au moins. 7-8. Ouais. Et donc, j'écoutais des tas d'aventures et je me disais, mais c'est ouf, j'apprends tellement de choses. Et tu vois, j'avais l'impression de passer 4 heures avec Schwarzenegger, 2 heures, 3 heures avec Jamie Foxx, et puis tel entrepreneur incroyable, Matt Mullenweg, ça pouvait être, comment il s'appelle, l'ancien patron de Google aussi, Eric Schmidt, Elon Musk, toutes ces personnes, je passais du temps avec eux dans mes oreilles, tu vois, je me disais, mais c'est ouf. Et en plus, je perfectionnais mon anglais, donc je me disais, en fait, voilà, et j'en écoutais, puis il n'y avait rien qui arrivait en France, je me dis, il y en a bien un qui va le lancer, puis à un moment, tu te dis, personne ne le lance, donc je vais le lancer moi-même. Et en fait, il se trouve que j'étais le premier avec Un autre qui s'appelle Antonin Archer qui a lancé un podcast qui s'appelle Nouvelle École, qui était super. Je crois qu'il a dû lancer 2 mois avant moi. Moi, je ne l'avais pas vu, en fait, puisqu'il était tout petit au moment où j'ai lancé. Et puis, assez rapidement, après, il y a eu une grosse vague de podcasts en France.
C'est vrai que c'est de plus en plus tendance. Enfin, je trouve que le podcast est de plus en plus tendance.
Je pense.
Ouais, et je pense que ça va continuer prochaines années.
Il existe encore pas mal de gens qui n'en consomment pas, qui ne comprennent pas en fait.
Qui ne comprennent pas l'intérêt.
Ouais. J'écoute que des podcasts conversationnels comme ça, des podcasts très longs. Et les gens ne comprennent pas qu'un podcast ça s'écoute
en plusieurs fois. Quoi. En fait.
Ouais. Moi là, voilà, tu vois, je t'ai croisé tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais allé chez moi chercher une montre. Et puis voilà, je suis parti. J'ai mon casque micro sur mon scooter. J'écoute 5 minutes à l'aller, 5 minutes au retour. Enfin, j'ai dû faire 12 minutes au total de podcast. Et puis, je ferai pareil ce soir. En fait, par jour, comme ça, ben, tu te retrouves à en écouter 30-40 minutes. Quoi.
Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, tu n'écoutes plus trop de musique. Quoi.
Enfin, j'écoute plus trop de musique.
Beaucoup moins.
Là, j'ai eu un retour sur Orelsan récemment. Je me suis remis à fond sur Orelsan parce que j'ai regardé ce documentaire. Je ne sais pas si tu l'as vu. Montre ça à personne. C'est sur. C'est extraordinaire.
C'est sur,
sur Amazon Prime. Non, extraordinaire.
J'ai pas vu encore.
Faut le voir. Un truc de buddies, tu vois, le crew par excellence. Ouais. Et donc, du coup, quand tu regardes ça et que tu te fais 6-7 heures de docu là-dessus, c'est son frère qui filme depuis des années, en fait, depuis qu'ils sont pas connus à quand.
Journaliste.
Clément, ouais. Et donc, c'est énorme. Et donc, ça m'a donné envie d'écouter un peu d'Orelsan, mais sinon, j'écoute surtout des podcasts.
Ouais. Podcasts, ouais, c'est vrai que tu vois, mais je suis un peu comme toi où j'écoute de la musique, mais quand je fais du sport, mais quand j'en ai marre, j'écoute soit une conférence, soit un podcast.
Ouais. Voilà. Mais c'est ça parce que quand. Là, tu vois, j'ai fait beaucoup de vélo récemment et j'écoutais un peu d'Orelsan, mais au bout d'un album, en fait, où tu vois, 45-50 minutes, en fait, t'as envie de passer à autre chose. Et comme moi, sur du vélo, je peux partir 3h, 4h, j'ai besoin d'écouter un truc où, tu vois, ça m'alimente le cerveau, quoi. Intellectuellement,
où on réfléchit en même temps.
J'ai envie, moi, ce que j'essaie de proposer sur Génération du Turcep, et la Martingale d'ailleurs, mais dans les podcasts que j'écoute, c'est un peu ça, Joe Rogan, Tim Ferriss, c'est un, passer un bon moment, parce que c'est divertissant, et deux, apprendre plein de choses. Si je réponds à ces promesses, et si les podcasts que j'écoute répondent à ces promesses, je suis content, tu vois. Je veux juste ça. J'ai pas envie de me saouler à écouter des trucs relous. C'était un peu le problème du... tu vois, là, sur YouTube, là, ton terrain de jeu, c'est cool là-dessus. Mais les audios, la radio, le
c'est
texte,
relou,
etc.
C'était
vraiment trop sérieux, hyper policé,
formalisé,
etc.
Quoi,
formalisé,
voilà.
Ouais. Et là, moi, je veux juste qu'on puisse se parler comme on se parle, en fait. Tu vois, comme on est, quoi.
Ouais, genre avoir une vraie discussion, quoi.
Exactement.
Chez Cosa Vostra, quel type de client as-tu ?
Écoute, j'ai des clients, on a trois grands métiers. Un métier de conseil, un métier de, pour simplifier, création de sites, d'appli, d'algo, enfin de création d'outils technologiques.
Okay.
Et un troisième métier qui est de la communication digitale. Donc, consulting en amont, agence digitale et agence créa et communication. Et là-dessus, on a trois grandes typologies de clients, on va dire. On a des clients dans le luxe, pas mal. Différents univers du luxe, le vin, domaine Baron Rothschild, les montres avec Tag Heuer. On en a pas mal. Les montres avec, évidemment, je te disais tout à l'heure,
Schmauser. Ouais, c'est très sympa.
Très sympa. On en a, on a d'autres clients dans le vin, d'autres clients encore dans les montres, plus petits ou plus récents. Et après, on a beaucoup de clients dans les médias, TF1, Tétu, Les Inrock.
Donc c'est très varié.
L'humanité, enfin ouais, très très varié. Voilà, et beaucoup de clients aussi dans le e-commerce. Donc on a vraiment une capacité à faire des choses, et d'ailleurs dans la finance perso aussi. Mais si tu regardes un peu nos podcasts chez Cosa Vostra, on a Génération du Turcep qui est mon podcast à moi, puis après on a La Martingale qui est sur les finances perso, donc on a beaucoup de clients dans l'univers des finances perso.
Ouais.
Le Panier qui est le podcast de Laurent Kretz qui est sur le e-commerce.
Avec
on
Laurent,
a beaucoup de clients.
Ouais,
ouais,
j'ai beaucoup écouté ça.
Super son podcast. Voilà, et Laurent, du coup on a beaucoup de clients dans le e-commerce parce qu'on a une grosse expertise e-commerce. Mediarama sur les médias, et après l'expertise luxe on la développe depuis assez longtemps, on va dire notamment aussi sur les contenus, parce qu'on est très fort en contenu. J'ai vraiment des super équipes pour écrire, produire des contenus audio, vidéo, etc.
Ouais. Mais comment tu fais pour toujours être à la page au niveau des clients, enfin, mais parce qu'on sait qu'avec l'arrivée de la blockchain, enfin, mais l'arrivée de nouvelles technologies, il faut toujours être à la page, enfin, mais, enfin proposer différents modes, mais pour promouvoir, etc. Mais comment tu fais, toi et tes équipes, bah, pour être à la page?
Bah déjà, on met les mains dans le cambouis, tu vois.
Ouais.
Et donc, du coup, à plusieurs niveaux, on crée. Moi, j'ai créé des NFT, tu vois, déjà,
okay.
Tu vois, donc je sais créer un NFT, alors que je ne suis pas dev, et je suis pas, voilà, j'ai déjà créé des NFT.
Mais tu as fait ça toi-même
Moi-même, avec quelqu'un qui m'a aidé, mais j'ai vraiment fait moi-même, il était à distance, quand j'avais des questions, je l'appelais, il me rassurait etc. plus que, voilà. Donc, on met vraiment, on expérimente énormément de choses nous-mêmes, et puis okay. après, on est à la page, je veux dire, quand tu animes des podcasts comme Génération Future Self, Le Panier, ben... Tu poses des questions à des gens qui sont au taquet sur TikTok, au taquet sur Insta, au taquet sur la blockchain, qui sont les meilleurs. Parce que c'est le principe quand même d'aller chercher les meilleurs et d'apprendre les meilleurs. Qu'à un moment, tu t'enrichis, tu downloads, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est public. Donc, tous les gens qui les écoutent, tous ces épisodes,
ils
vont progresser aussi. Autant que moi, hein, pas beaucoup plus que moi. Moi, j'ai la chance en plus de créer mon réseau. Mais la seule... et ça change, en vrai, ça ne change pas grand-chose. L'expertise. Et après, ce qu'il faut, c'est connecter les dots. Et ça, c'est le truc le plus compliqué. Connecter les points, connect the dots, comme disait Steve Jobs. C'est de te dire, tu vas voir un client, il va te parler d'une problématique. Tu vas dire, attends, mais j'ai entendu ça sur tel podcast ou de chez tel invité, etc. Et tac, tac, tac. Puis après, tu vas lui dire, peut-être que tu pourrais faire ça. De temps en temps, il ne va pas te comprendre ou il ne va pas machin, donc tu vas devoir lui expliquer. De temps en temps, il ne va pas être d'accord. Et puis, si tu es vraiment fondamentalement persuadé que c'est une bonne idée, tu vas essayer de le convaincre. Il faut avoir une vraie force de persuasion, être dans le conseil. Une vraie humilité aussi, parce qu'en fait, nous, on teste plein de choses. Dans les boîtes qu'on crée, on se plante de temps en temps. Et il faut qu'on explique aussi à nos clients. Viens avec nous, on va tester des trucs, parce qu'il faut tester des trucs. En revanche, je ne te garantis pas que tout marchera. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en revanche, si tu testes plein de trucs et qu'il y en a un qui cartonne, enfin moi, je prends le podcast, tout le monde me dit « mais qu'est-ce que tu vas faire dans les podcasts quoi ?» Personne n'écoute les podcasts.
Alors que c'était très très niché.
Et moi, j'y croyais, j'avais cette conviction profonde parce que j'en écoutais que ça. Je me disais « il y a un jour où il va y avoir… » Je ne suis pas le seul connard à écouter des podcasts, tu vois. Il y a bien des gens qui vont le faire à un moment, tu vois. Et en fait, c'est venu petit à petit. Et puis en fait, au début, tu fais 200 écoutes le premier mois, 2000 au bout de 3 mois, par mois, je veux dire. Et puis, à un moment, tu passes les 100 000, les 200 000. Et puis maintenant, j'en fais, tu vois, j'ai fait des mois à 500, 600, presque 700 000 écoutes, tu vois. Donc, c'est beaucoup en podcast. Sur YouTube, c'est différent, mais le podcast, c'est moins viral, le podcast. Donc, c'est beaucoup d'abonnés, en fait, qui viennent et qui reviennent.
C'est ça, mais c'est un peu plus compliqué. Pour en avoir fait aussi un peu, c'est vrai que c'est quelque chose complètement différent.
Ouais.
Pour revenir, du coup, sur les nouvelles technologies, mais qu'est-ce que tu penses de la blockchain et de tout cet aspect crypto?
Je pense que du bien de ça.
Tu penses que ça va être l'avenir? Est-ce que tu penses qu'on va vraiment avoir un monde mais dans le métaverse et tout ça?
Le métaverse, c'est encore autre chose. Je pense ce qui est paradoxal, c'est que on fabule un peu sur le métaverse. Là, j'essaye. C'était quoi? J'essayais encore un truc il y a quelques jours. Un univers comme ça sur lequel tu peux aller, tu vas voyager à d'autres dragons, ça s'appelle Decentraland.
Ah, Decentraland.
Voilà. J'essaye un peu ça, mais bon, je sais pas, tu vois, ça me fait penser, il y avait des vieux trucs qui s'appelaient Second Life il y a quelques années, il y a 15 ans, et ça, j'y crois pas trop. En revanche, j'y crois pas trop, je sais pas à quel point on va vivre là-dedans, mais il va y avoir quand même des casques de réalité virtuelle, des expériences assez cool à faire. Je reviendrai sur une expérience que j'ai fait avec et grâce à Hmoser, justement en Suisse, tout à l'heure, si tu veux. En revanche, il y a déjà des gens qui vivent dans des métaverses. Enfin, je veux dire, dans les plus jeunes, il y a des gens qui vivent sur... tu vas me donner les jeux, je ne les connais pas forcément moi-même très bien, mais...
mais je ne joue pas non plus.
Non, mais tu vois, ces jeux avec différentes skins de...
Skyrim, enfin, des trucs comme ça.
Et en fait, il y en a sur des consoles, pas forcément que avec des masques, hein, même sur un téléphone, même sur machin, en fait, qui passent leur vie entière à acheter potentiellement des choses, à se la péter parce qu'ils ont un truc punk virtuellement, etc., à détenir des choses. Et donc, Sorare, c'est une réalité. Enfin, tout ça est une réalité. Ça commence. Donc,
il y a quelque chose.
C'est pas que le futur. C'est déjà le présent. Et donc, ça va grossir pas mal. Et la génération qui arrive là, elle va grossir. En fait, c'est comme si à un moment, tu vois, moi, quand j'avais 25 ans, J'étais un des tout premiers en France sur Facebook. On me disait, mais qu'est-ce que tu penses que ça va marcher, etc. Je voyais, moi, que j'étais déjà sur Facebook. Je me disais, mais oui, ça va marcher, c'est sûr, quoi.
Mais t'as pris des actions Facebook à l'époque ?
J'ai fait mieux que ça.
Ah.
J'ai conseillé à ma femme d'aller travailler chez Facebook parce qu'elle a eu très vite des offres là-bas et elle a travaillé chez Facebook.
Ah ouais,
donc elle a eu des actions Facebook.
Ouais, donc, ok.
Heureusement, ce sont les siennes, ce ne sont pas les miennes, mais
ouais.
Chacun a fait son chemin, c'est bien. Mais donc oui, non pardon, et la blockchain, pour te répondre, je crois fortement à la propriété des biens digitaux. Et je reprends, et des biens physiques d'ailleurs, mais le fait d'avoir des biens de propriété, des biens digitaux, donc que ce soit des œuvres artistiques comme sur des NFT, ou je sais pas moi, justement, dans un jeu vidéo, une métaverse ou quelque chose, de pouvoir être propriétaire d'un personnage, d'un maillot, d'une maison, qui peut aller d'un jeu vidéo à l'autre,
un peu comme
etc.
les Sims, quoi.
Ouais, potentiellement. Ouais. Mais aussi, tu vois, sur une montre ou un téléphone, pouvoir dire, tiens, regarde, cette montre, je l'ai achetée. J'ai le NFT qui est lié à la montre. Et quand je te vends la montre, je te donne le NFT. Donc, je l'ai acheté à Rolex, tel jour, telle heure, tel machin. J'essaye aujourd'hui de convaincre nos clients dans l'horlogerie, de dire, tu vois, s'ils veulent travailler sur du second hand ou des révisions de montres,
okay.
Les montres qui reviennent à l'atelier, vous leur créez un NFT, vous les certifiez, vous les revalidez, vous les certifiez. Quand tu la rends ou que tu la revends à quelqu'un, tu fais un NFT avec. Comme ça, tu vas avoir là-dessus un circuit de seconde vie qui fait qu'elles seront toutes liées au NFT. Et si moi, demain, je te vends une montre qui n'a pas le NFT, c'est qu'elle a été volée.
Ouais, mais après, le problème avec les montres, enfin, mais notamment dans le seconde main, c'est qu'il y a un marché des pièces détachées. C'est que, certes, mais tu vas certifier la montre à un instant T, mais qui te dit que la personne qui a ce NFT ne va pas ouvrir la montre et la dégouiller et faire sortir les pièces, tu vois.
C'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir, par exemple, quand est-ce que, et ça, ça peut être noté dans des choses autour du NFT ou si tu montres que tu as la propriété du NFT à la factory, pour dire quand est-ce qu'elle est repassée dans la factory. Et si tu sais qu'elle est repassée il y a 2 mois, il y a 3 mois et pas il y a 8 ans ou 12 ans, bah, a priori, il y a moins de chances qu'elle ait été complètement revisitée.
Là, c'est bon. Mais ça veut dire qu'il y a toujours un élément central, qu'est la factory, qui doit...
Mais ça leur permet en termes de business,
de
connaître leurs produits, de savoir
leurs clients,
leur client, etc. Et moi, je pense que ça, c'est important, mais c'est bien aussi pour les clients. Parce qu'en fait, justement, c'est là où tu reviens sur des produits qui sont revérifiés, qui sont entretenus dans le long terme. Donc, je pense que c'est assez sain pour tout le monde, en fait.
Il y a quelque chose à faire avec les NFT dans l'horlogerie. Mais c'est vrai que le marché du seconde main et tout,
tu vois,
c'est quand même assez compliqué.
Si demain, je te vendais une montre, tu me dis... Moi, j'ai quand même un problème là-dessus. Si demain, on me vend une montre en seconde main, je suis incapable de savoir si elle est vraie, fausse, qu'est-ce qu'il y a dedans.
Qu'elle a été touchée et tout.
J'en ai aucune idée. J'ai plein de gens qui me disent « mais non, mais moi, je sais, etc. » Il faut quand même être très, très, très expert. Hein. D'après ce que j'ai compris, il y a même de temps en temps des faux qui sont tellement bien faits que les factories d'origine ont du mal à les déceler. Donc, je ne vais pas le déceler, tu vois.
Tout à fait.
Donc, finalement, si tu me dis, toi, je te dis « je te vends ma montre », tu me dis « ok ». Et le process, c'est je l'envoie chez Rolex. Eux la revérifient, la nettoient, la machin, la certifient et te la renvoient. Ils disent « c'est bon, la montre de Mathieu est square, etc. » Toi, le prix, on l'a défini. Eux, ils prennent 15, 20, 30%, peu importe, un fixe fee. Eh bien, eux gagnent. Toi, tu es rassuré. Moi, je suis content parce que je la vends bien. Je pense que tout le monde
ils connaissent à qui va la montre.
Ouais.
Aussi.
Ouais.
Et donc, ils ont une base de données, un certain CRM, etc. C'est vrai, ça peut être plutôt une bonne idée. Et donc, toi, tu as créé des NFT ?
J'ai créé des NFT.
Tu as créé une collection ?
Alors, j'ai fait une collection. J'ai fait un épisode donc, sur la martingale avec un type qui s'appelle John Karp, que j'adore, sur les NFT, pour comprendre un peu la folie NFT,
l'univers,
etc. Et puis... à un moment dans l'épisode, je dis donc que, par exemple, je pourrais créer un NFT de cet épisode. Il dit bah ouais, carrément. Je dis mais je fais comment ? Il me dit tu vas sur OpenSea ou sur Rarible et puis machin. Moi, je vais sur OpenSea. J'arrive, je me connecte avec mon wallet. Alors, ça paraît compliqué, alors que c'est hyper simple tout ça. C'est quand même vraiment très simple. Je me connecte avec mon wallet. Je vois sur OpenSea que, en fait, je ne peux pas créer une collection, mais c'est qu'un seul. Alors, je l'ai fait sur Ether. Ça m'a coûté très cher. Il faut le faire visiblement sur Tezos maintenant. Okay. Parce que Ether, ça coûte trop cher. Et en fait, ce que tu appelles minter le NFT, donc la création du NFT, te coûte entre 200 et 350 dollars. Donc, okay. Alors que sur Tezos, ça va te coûter quelques centimes.
C'est totalement différent.
C'est plus secure sur Ether, semble-t-il, mais bon, il y a une nouvelle version d'Ether qui va arriver, je ne vais pas rentrer dans les trop techniques, mais on fait cet épisode, et puis je commence à créer le NFT de l'épisode, et je me dis, bon, mais quelle est la plus-value, quelle est... Et puis,
l'intérêt
pour le... Voilà, et du coup, en échangeant avec lui, on se dit, bon, on va créer un petit déjeuner. Et le NFT donnera accès au petit déjeuner, et peut-être que plus tard, il aura d'autres... C'est un terme, je ne l'ai plus, mais on pourra donner accès à d'autres choses si tu as le NFT. Donc pour l'instant, la première chose, c'est un petit déjeuner qui a lieu le 19 janvier 2022 avenue à côté du Parc Monceau, là, le grand...
Royal Monceau.
Le Royal Monceau, voilà. Donc on fait un petit déjeuner, il y avait 5 NFT, ouais. Ils ont été vendus en 20 heures. Il y en a qui ont été revendus depuis, donc ils étaient vendus 250 dollars à l'origine, il y en a un qui était revendu 2500 dollars. Et donc c'est un petit déj avec John et moi et 5 autres personnes. On va se faire ça, donc là tu vois, dans 15 jours, quoi. C'est cool.
Ça c'est fou. Hein.
Ouais.
D'accord. Mais le problème des NFT, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui scam. Enfin, je sais pas mais si tu en as entendu parler et tout. Et puis, mais c'est vrai que beaucoup de gens se font avoir. Est-ce que tu penses qu'il y a une hype tout autour de ça?
Oui.
Mais parce qu'on sait, bon, mais les plus connus, mais c'est les cyberpunk, les
CryptoPunk,
voilà. Les CryptoPunk, etc. Ape, etc.
Ouais.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas tout un... Enfin, mais est-ce qu'on ne serait pas dans une bulle?
Si, probablement. Je pense qu'on est probablement dans une bulle, mais ce n'est pas grave. Tu vois, il y a eu une bulle. Moi, j'ai vécu une bulle Internet.
Ouais.
C'est pas pour autant qu'Internet n'a pas explosé derrière, en fait, tu vois. C'est juste qu'on est dans une bulle, là, on fabule tous sur le truc. Faut pas faire n'importe quoi, j'achèterai pas un CryptoPunk à 100 Ether, quoi.
Ouais.
Tu vois, je vais pas m'acheter un CryptoPunk. Mais à la limite, faut aussi voir que ceux qui achètent des CryptoPunk à 100 Ether, il y en a parmi eux qui ont acheté des Ether à 1 dollar.
Ouais,
alors
donc
aujourd'hui, ils valent 4 000 dollars.
C'est...
Donc en effet, ça vaut 4 millions. Mais leur coût à eux,
c'est, pas
c'est un manque à gagner de 4 millions. Mais pour eux, en fait, comme ils en avaient plein d'autres, c'est pas grave, ils sont riches en centaines de millions potentiellement. Ils ont déjà vraiment l'argent. Donc en fait, pour eux, c'est pas très grave. C'est pour ça que ça crée cette bulle. C'est qu'il y a toute une partie des personnes qui sont propriétaires des cryptos qui ont déjà des fortunes colossales et qui ont vendu des trucs, qui ont acheté des appartes à Londres, à Notting Hill, à Paris, à Courchevel et je sais pas où. Bon, eux, ils ont fait leur argent, donc ils s'en foutent, leurs éthers, ils en ont, ils achètent des trucs et puis ça les fait marrer. Et ils vivent, et puis ils alimentent le truc,
la
bulle, etc. Maintenant, tester tout ça, juste vraiment, je le dis, je le redis, mais... Testez-le, quoi. Achetez quelques Tezos, prenez 50, 100 dollars. Mais toutes les personnes qui hésitent, qui se disent « il faudrait que je le fasse, mais oui, il a raison, ça fait des mois », arrêtez, quoi. Arrêtez même ce show-là maintenant, désolé pour toi, et faites-vous un putain de portefeuille crypto, un Metamask, achetez un centième de Bitcoin, un centième d'Ethereum, et puis quelques Tezos, allez sur Rarible, allez sur, écoutez les quelques épisodes que j'ai fait là-dessus, des podcasts qui sont à venir aussi autour des cryptos, renseignez-vous un peu, parce que c'est clairement le futur. Moi, ma génération, moi, à ton âge, j'avais la déferlante du web qui arrivait, du web 1. J'ai vécu le web 1, web 2. Il y a une opportunité maintenant qui est extraordinaire, c'est le web 3. Et il faut mettre les mains dans le cambouis maintenant, il faut le comprendre, il faut créer vos NFT, il faut en acheter des petits trucs, il faut écouter tes podcasts, mes podcasts, écouter tes chaînes, regarder tes chaînes YouTube et se gaver d'informations là-dessus parce qu'il va se passer des trucs de ouf.
C'est vrai. Mais c'est vrai que ma chaîne n'a rien à voir avec ça.
Non, mais c'est s'alimenter intellectuellement.
Mais mais constamment, enfin, vouloir apprendre, quoi.
Tout à fait.
Mais c'est vrai, par exemple, tu vois, j'ai trouvé dans les NFT qu'on avait implémenté certains trucs du dropshipping. Mais j'ai reçu pas mal de mails, notamment des personnes qui me contactaient pour lancer des collections, pour les promouvoir, ces collections. Sur ma chaîne ou sur mon Instagram, et moi, mais peu importe. Et en fait, je pense que tout ça alimente la hype.
Bien sûr. Ils sont très forts en marketing autour de ça. Ouais.
C'est ça. Et donc, je pense que certains utilisent les réseaux sociaux, bah, notamment Twitter. Hein. Twitter, Instagram, TikTok, et les influenceurs
TikTok,
aussi.
TikTok énormément. TikTok, ouais, ouais. TikTok grossit énormément sur les NFT, les cryptos, énormément. Et il faut juste faire attention, ouais. Parce que parmi les plus jeunes, on le redit, on est très probablement dans une bulle. Il ne faut surtout pas vous mettre all-in là-dedans, mais surtout pas en fait. Il faut tester. Moi, je ne suis pas en train de dire ça, attention. Hein. Juste, il faut tester avec des tout petits montants. Et ces petits montants, de temps en temps, quand tu as un peu de chance et que tu as du flair, ça monte, mais ça monte très fort en fait. Parce que tu as des trucs qui font du 1000%. Donc, si tu mets 100 balles et que tu fais 1000%, tu prends 100 000 euros, tu vois.
Ouais, c'est
donc. Ça peut faire beaucoup, tu vois. Et le truc, c'est que après, souvent, quand tu as fait 100 balles et que tu as pris 100 000%, tu as l'impression d'avoir tout compris. Sur celui d'après, tu vas mettre, comme tu as 100 000, tu mets 10 000 ou 20 000 sur un truc, et puis en fait, tu vas te faire arnaquer, tu vas prendre zéro. Et, ou alors, si tu es vraiment con, tu vas remettre tes 100 000 sur un seul truc, puis tu vas les perdre.
Et là, tu vas croire que.
Voilà. Et donc, il y a aussi beaucoup de poudre aux yeux dans ce marché, mais je pense qu'à horizon 5-10 ans, le Web3 va être une déferlante. Ouais.
Revenons un peu sur l'horlogerie, mais j'ai vu que tu as deux montres. Enfin, tu en as une connectée.
Ouais.
Si on peut. Ouais. Et une autre qui est un peu plus bijou, quoi.
Exactement.
Pourquoi ? Bah, pourquoi ?
Je vois que tu es pareil. Hein. J'ai vu. Alors, celle-ci, j'aimerais avoir plus. Hein. Il se trouve que c'est une Fitbit. J'aime bien aussi. Comment s'appelle cette boîte française ? WeThings. Ouais. Que j'aime beaucoup. Il se trouve que en fait, je cherchais la plus discrète et le bracelet connecté le plus discret, mais quand même le plus complet. Et puisse me donner en permanence mes pas, mon pouls, mon sommeil, ça c'est assez important. Tu vois, mes distances, voilà, quelques métriques comme ça, le taux de saturation d'oxygène, des choses comme ça. Et donc j'aime bien avoir un tracker comme ça. Mais l'Apple Watch, même si je suis assez Apple aussi, est trop grosse. Donc j'en parlais ce midi avec un de mes associés. J'adorerais qu'Apple sorte un bracelet, un tout petit bracelet, un bracelet comme ça qui tient juste quelques métriques, voilà, un truc biométrie, enfin voilà, vraiment un truc qui suit, qui traque et tout. Mais même il est très peu connecté au niveau des notifs. Je reçois peu de notifs, ça vibre assez peu. En revanche, tu vois, un truc que j'adore là-dessus. C'est la vibration pour le réveil. Tu dois faire ça aussi, non ?
Ouais, aussi.
Le réveil qui vibre, c'est tellement magique comparativement au réveil qui sonne. C'est tellement doux, tu vois, quand ça vient doucement, tu te dis, ah, tiens, c'est pas ton truc, je trouve ça cool. Mais en revanche, avoir une Apple Watch, c'est trop gros pour avoir deux grosses montres. Et je peux pas me résigner à pas avoir une montre mécanique, quoi. Ou une automatique. Pour moi, c'est trop beau, c'est un truc... honnêtement, j'ai eu deux révélations, ou deux ou trois. Je te disais, ma première montre à Londres, puis celle-ci, et dans un ordre différent. Et puis les visites de chez Moser, j'ai pas encore eu la chance de visiter les ateliers Tag Heuer parce qu'on travaille avec eux depuis les confinements, et donc ils n'ont pas ouvert au public les ateliers. Mais... quand tu vas voir, tu as visité une manufacture de montres, évidemment ?
Pas encore.
Non, mais il faut que tu ailles chez Moser, absolument. Je demanderai à Edouard, on verra si c'est possible.
Avec plaisir.
C'est à la fois beau, impressionnant, c'est techno, mais à la fois aussi old school, c'est-à-dire qu'ils utilisent des technos maintenant pour modéliser en 3D toutes les montres qu'ils vont faire, ils savent toutes les pièces avant, exactement comment ça va fonctionner, etc. Donc c'est high-tech, mais à la fois derrière, ça reste que de la mécanique, quoi.
Ouais.
Et quand tu vois chez Moser, je vais donner des chiffres approximatifs, mais je crois qu'ils ont un mouvement qui te permet sur les dates de faire tous les mois de l'année.
Ouais.
Donc les 2, 31 décembre, 31 janvier, 31 juillet, 31 août, tu vois, parce qu'il y a deux mois où il y a des 31 qui suivent, plus le mois de 28 jours, février, plus tous les 4 ans, le février de 29 jours. Et si tu gardes la montre au poignet, tous les 4 ans, elle va te balancer un 29 février. Tu n'as pas à la remettre à jour. Celle-ci, par exemple, elle a 31 jours, et puis tous les mois, si je suis sur un mois de 30 jours, je dois remettre, tu vois. Et ils ont un mouvement comme ça. Ce mouvement-là, il faut, je crois, 45 jours hommes de travail pour le faire. Il faut une personne, ou deux, je crois qu'ils sont deux. Ils bossent 45 jours pour faire juste pour une montre un mouvement.
Oui.
Après, tu te dis de temps en temps, c'est un peu pété ces montres-là à 50 000 balles la montre, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est peut-être un peu moins, mais enfin, on est dans ces prix-là. Mais en fait, non, c'est une prouesse déjà. T'imagines
technique,
être technologique. Technologique, mais une prouesse aussi manuelle d'être capable de faire ça. Et quand tu visites ça, tu vois l'intelligence, en fait, c'est l'intelligence humaine, c'est la beauté de l'âme humaine qui est mise dans un boîtier qui dure des générations. Qui est non seulement un marqueur de temps quand tu l'achètes, comme je te disais, si tu l'achètes pour un événement, mais aussi un marqueur de temps et de génération si tu te le redonnes à tes enfants, à tout ça. Enfin, c'est un truc, je trouve que c'est merveilleux. Moi, c'est un truc qui me touche énormément.
Et donc, là, tu as une Rolex Adjust vintage, mais sur un bracelet NATO.
Ouais.
Mais pourquoi le NATO et pourquoi ne pas l'avoir laissé sur son bracelet d'origine?
Alors, je l'ai laissé sur son bracelet d'origine assez longtemps. Et en fait, il se trouve que... Il y a deux choses principalement qui font que j'aime bien les bracelets. Alors, trois choses. Les deux premières étant liées. La première, c'est que je trouve que les bracelets acier, c'est très bling-bling.
Ouais.
J'ai peut-être été bling-bling un moment, pas trop, mais en tout cas, je suis pas très bling-bling. Donc, j'aime bien un peu de discrétion et je trouve que les bracelets NATO, ils sont plus discrets. Je trouve qu'en termes de style, donc c'est lié aussi à ce côté bling-bling, mais c'est plus joli en fait. C'est un côté très... vintage, NATO, hein, c'est donc comme l'OTAN, hein, marine, militaire, etc.
Ça a été créé pour ça, quoi.
Et le dernier truc, depuis que j'ai un bracelet NATO, c'est que un jour on m'a dit que quand tu as une montre comme ça, la plupart des montres, mais les Rolex en particulier, ou certaines montres un peu solides qui sont des montres de baroudeur quand même, tu dois jamais l'enlever. Si tu l'enlèves, c'est pour la mettre dans un coffre, mais tu dois pas la laisser si tu es à l'étranger. Alors tu peux l'enlever la nuit si tu veux pas avoir le bruit de la... parce que ça fait du bruit, mais si tu vas te baigner, si tu vas jouer au golf, moi je joue pas au golf, mais si tu vas faire des trucs de ouf, moi j'ai fait du kite avec cette montre, les mecs me disent mais qu'est-ce que tu fais du kite avec cette montre, faudra la laisser dans ta chambre. J'ai plus de chances de la perdre ou de me la faire voler en la laissant dans ma chambre. Que si je l'ai, voilà. Et un bracelet NATO, c'est fait pour, c'est robuste, c'est un bracelet militaire.
C'est fait pour résister.
C'est fait pour résister. Va faire du kite avec un... Moi, honnêtement, je ne serais pas à l'aise avec un bracelet, mon bracelet métal, parce que quand tu fais un... Je te donne un gros coup comme ça sur la table, le bracelet, il peut s'ouvrir. Et en kite, tu prends des gros chocs.
Ouais, et puis bon, mais comme ce n'est pas un modèle pro, je pense notamment au fermoir de la Submariner, où t'as, mais qui est beaucoup plus adapté, quoi.
Tout à fait. Maintenant, les normalement, en tout cas, beaucoup de gens connaissent bien Rolex. Je ne dis pas que je le ferai avec... Avec même ma tag, je ne sais pas si j'irai faire du kite, en tout cas sans changer le bracelet en cuir.
C'est parce que du coup, tu as aussi une tag Heuer.
Ouais. Mais pour celle-là, juste pour te dire ce que j'adore, parce que les Rolex peuvent aussi faire très bling-bling, je trouve.
Oui. C'est la première image qu'on a de la marque. Hein.
Ouais.
Tu as eu Jacques Séguéla en plus.
Oui, c'est vrai. J'ai eu Jacques Séguéla sur mon podcast. Donc si tu n'as pas ta Rolex à 50 ans, voilà. Il y en a qui sont quand même extrêmement belles, il y en a qui sont extrêmement bling-bling. Moi, ça reste une montre qui est relativement discrète. Moi, je la trouve super élégante, hyper chic, la Datejust. T'as la date, t'as tout, elle est sobre. Moi, j'aimerais l'avoir dans d'autres couleurs, en bleu marine, champagne, pourquoi pas, en noir même, j'aimerais vraiment. Mais bleu marine, je la trouve vraiment super chouette. Et donc voilà, c'est élégant, c'est pas bling-bling. Et je trouve ça cool. Après, t'as ça aussi chez des Royal Oak, des Audemars.
Ouais, c'est quand même un peu plus fragile.
Ouais, c'est plus fragile.
Bien plus fragile, quoi.
J'ai eu
la Tag Heuer.
La Tag Heuer, donc une Carrera, qui est un modèle qui doit dater des années 2000.
Iconique,
qui est une reproduction de la première Carrera. Donc je sais pas si tu les montreras après. Et donc ça qui est un super beau modèle, aussi assez vintage et aussi assez discret, je trouve, enfin qui est pas...
Ouais, qui passe partout et qui est pas très ostentatoire, quoi.
Et voilà, et donc ça c'est une très belle montre, un mouvement auto qui marche super bien, et que j'adore, que j'ai eu, je crois, pour mes fiançailles, tu vois, un peu old school. Et celle-ci, je la trouve vraiment superbe. Elle a, tu vois, ça c'est un marqueur de temps plus un temps plus affectif, je trouve. Et c'est cool aussi, tu vois, d'avoir ça.
Bah c'est...
Je te parlais mariage, fiançailles ou potentiellement
naissance,
c'est bien, ou des 30 ans ou des choses comme ça. Je pense que c'est bien aussi.
S'offrir une montre à un instant
un marqueur de temps.
Ouais.
Ça rajoute à l'histoire de la montre, tu vois. Donc,
c'est vrai.
Et si, tu vois, si, d'ailleurs, tu mettrais ça, si tu pouvais ajouter, je ne suis pas sûr que tu puisses inscrire des nouvelles choses dans un NFT, mais si tu pouvais l'ajouter, ce serait quand même assez chouette. Tu
vois, si je pouvais... pour...
Ouais, voilà. Tu vois, et puis derrière, tu prends, alors peut-être pas toi ou moi, j'en sais rien, je sais pas quel avenir on va avoir, mais tu dis, tiens, cette montre était la montre d'anniversaire du mariage de Beyoncé et Jay-Z. Bon, bah, tout de suite, ta montre, elle part,
oui,
tu vois.
Ouais.
Mais c'est ça qui est rigolo, en fait. C'est dire, en fait, sur certains trucs, elles vont graver une histoire. Et ça, des histoires, il y en a des millions. Enfin, ça peut être, je sais pas moi, la montre qui a été offerte pour tel grand prix gagné par...
Par tel pilote,
etc., tu vois. C'est et vrai. Ça rajoute à chaque montre quelque chose.
Et
j'en ai une autre aussi. Je t'ai dit, oui, la Dior, la chiffre rouge.
Ouais.
Elle est superbe. Tu vois ce que c'est? Tu vois comment elle est?
En révision. Je vois à peu près le modèle.
Designé par. Attends, je vais te montrer ça. Designé par Eddie Sliman.
Okay.
C'était vraiment le grand designer du renouveau de Dior, tu vois.
Ouais, ok. C'est un chrono.
C'est un chrono. Elle est très belle. Elle est asymétrique. Elle est très début années 2000. Hein. C'est vraiment un style, ouais. Je pense, propre à cette époque-là.
Très particulier.
C'est une des premières belles montres de Dior. Je crois que c'est une des premières montres automatiques de Dior. Avant, je crois qu'ils n'avaient que des montres, comment on appelle ça
Mécaniques,
exactement, merci. Ou quartz. Et là, vraiment, c'est un super... voilà, celle-ci, je l'adore. C'est très affectif. Mais à chaque fois, c'est marrant parce que, tu vois... Ça n'est, je peux dire ça, qu'une Dior, en tout cas, qui n'est pas une marque reconnue pour ses montres, tu vois.
Comme d'autres.
Et je pense qu'ils font du chemin là-dessus. Et pourtant, à chaque fois que je la porte, à chaque fois, des gens me disent, elle est vraiment superbe, cette montre. Tu vois, ma mère, qui n'est pas une experte de montre, mais qui a du goût, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit, mais elle est vraiment, c'est ma préférée, etc. Et très souvent, on me fait des remarques sur cette montre en me disant, waouh.
Ça casse un peu les codes, ouais. Quoi. Mais que penses-tu de la marque Rolex? Et de son marketing, même toi qui es un peu dans le digital marketing.
Écoute, j'en pense pas mal de bien. Après, je trouve qu'il y a des choses très, très, très classiques qu'ils font. Et c'est ce qui fait un peu leur style, en fait. Il y a un côté dans la durée chez Rolex, tu vois, à sponsoriser Roland-Garros, des gros tournois de tennis, des gros cours tournois de golf, etc., etc.
Des sportifs connus, etc.
Donc, c'est ultra classique, en fait, hein, comme approche. Ça manque peut-être de peps, quoi, ce qu'on a essayé de faire avec Moser, donc un de mes clients. Je te raconterai, parce que au-delà du fait que ce soit client, moi, je t'ai montré d'ailleurs tout à l'heure, là, si tu veux, je t'en reparlerai, mais... La Moser de mes rêves, la montre de mes rêves, elle est chez Moser, très clairement. Une vente à black. Tu vois, je te parle de discrétion, la montre est toute noire. Il n'y a même pas écrit Moser dessus.
Bah là, c'est la montre la plus noire.
La plus noire. Donc le modèle vente à black, je t'enverrai s'il m'autorise à mettre la photo que j'ai prise avec, parce qu'au moment où je te parle, elle n'est pas encore
sortie.
C'est une collab, elle est dingue. Elle me tue, cette montre. J'en rêve depuis que je l'ai portée au poignet, quoi. Et donc, chez Moser, on essaie de faire des trucs un peu fucked up, tu vois, qui détonnent. Chez Rolex, c'est peut-être leur position un peu leader. Ils sont très classiques.
Bah, ils font ce qui marche, hein, depuis...
Mais, tu vois, je peux les comparer un peu à Porsche, quoi. C'est-à-dire que t'es dans des montres qui prennent de la valeur, qui sont solides, qui traversent le temps, qui vieillissent pas trop.
Les époques.
Les époques, qui sont robustes. Ça, tu sais que t'achètes une Rolex, t'auras pas trop de merde. Et donc, il y a un peu ce côté force tranquille, tu vois, comme je dis, qui traverse le temps avec une forme d'inertie. Alors, est-ce que là-dessus, tu peux prendre le risque? Je pense que oui, tu devrais, mais de faire en communication, en image, des trucs complètement tripés. Je pense qu'il faudrait un peu oser de temps en temps sortir un peu des sentiers battus. Mais quand même, il y a une obligation d'une sorte de leader de dérouler comme ça, quoi.
C'est clair. Et pour terminer, quelle est ta prochaine montre, si on a une?
Eh ben, je pense que ce serait cette vente à black. Du coup, alors là, on rentre dans des budgets qui sont quand même assez sérieux chez Moser. Hein, et il y a une chose qui est importante pour moi, et Moser l'a atteint ces derniers temps, et je pense qu'on a essayé d'y participer activement. C'est un super client, je pense qu'ils ont vraiment fait ça. Tu vois, il y a peut-être un 60-40 de leur côté ou 70-30 de leur côté, mais les accompagner pour devenir une vraie marque qui fait que chez Mother aujourd'hui, les mondes se bonifient avec l'âge et surtout prennent de la valeur.
Oui.
Et pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez important.
Mais c'est ce qui commence à se passer. Hein. Certaines collaborations se sont très bien vendues.
Oui, mais chez Mother, c'est le cas. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui tu achètes une montre, au moment où tu la reçois, elle vaut 20% plus cher au second marché que... De toute façon, il faut 18 mois pour l'avoir. Donc, et donc, l'idée, c'est de se dire que pour moi, qui commence une petite collection, tu vois, petite, à mon humble image, à mon humble niveau... Je considère pas acheter des montres. Il faut que ça ait de l'histoire, il faut que ça se bonifie. Il faut alors tu fais pas des super coups à chaque fois, mais chez Mother pour moi c'était assez important de voir qu'aujourd'hui c'est une marque qui commence à avoir une belle empreinte, à être vraiment la marque indépendante au-dessus des autres. Ces ventes à blagues, je sais que cette vente à blagues, cette collab, je ne sais pas si je réussirai à en avoir une parce que je crois qu'ils la font en 50 exemplaires. Ouais. Il y en a 25 pour la marque qui fait la collab et 25 pour Mother. Donc je ne vais pas passer en premier. Ça va être un peu la guerre. Mais j'appellerai Edouard Mélan pour lui en parler. Mais c'est. Tu es vraiment dans un truc qui est à la fois beau, inspirant, poétique, discret. C'est superbe. Vraiment superbe.
Ça marche. Et puis, merci à toi, Mathieu, en tout cas. Et puis, c'était très, très cool. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Je suis très, très LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Tu mettras le lien, je pense, ouais. Mathieu Stéphanie. Instagram, c'est MattinTouch. J'ai quelques mothers dessus, d'ailleurs.
Ouais,
MattinTouch. Je te donnerai un lien vers YouTube. Je débute sur YouTube. TikTok un peu, je m'y mets aussi pas mal. YouTube et TikTok, que tes abonnés puissent me suivre. Comme ça, quand je pousserai un peu sur YouTube, ils me verront passer. Mais je te remercie aussi, vraiment, c'était très cool de me recevoir et de parler de tout ça. Et puis bravo pour tout ça, parce que à 22 ans, tu vois, moi je pense que j'étais pas encore assez. J'avais pas encore assez de gut pour me lancer. Bon, j'avais pas YouTube non plus, c'est au moins je faisais d'autres choses, mais donc c'est bien ce que tu fais, bravo.
Merci. Je mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas à aller checker et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Salut.
Salut.